bonjour, Philippe Bouvard, ravi de vous retrouver en ce dimanche pour Allo, ici Bouvard, c'est jusqu'à midi sur RTL. Bonjour Philippe.
Bonjour Isabelle, bonjour vous tous qui nous écoutez, qui m'écrivez et qui allez, je l'espère, nous suivre. Parce qu'à notre sommaire aujourd'hui figurent des handicaps. Et des handicaps parfois graves, parfois plus badins. D'abord, une question que se posent depuis 10 ans les comptables et les gestionnaires de certains établissements hospitaliers. Qui doit assurer les frais de la survie de Vincent Lambert ? Bon, parce que ça coûte cher la réanimation, hein, ça coûte 3 200 euros par jour, plus 60 euros si l'infortuné dispose d'une chambre individuelle, et puis tous les soins d'une hospitalisation plus ou moins poussée avec la nutrition et l'hydratation artificielle. Ça coûte très cher, c'est la collaboration d'une équipe et même de plusieurs. Et la réponse aujourd'hui, c'est l'État qui doit payer. Depuis que le CHU de Reims a décliné cette responsabilité en arguant d'une décision de justice. Et d'ailleurs, le périple médical de Vincent Lambert est très curieux. D'abord, il est allé au centre d'éveil de Berck, puis dans un centre spécialisé en Belgique, et puis à la demande des magistrats qui souhaitaient une expertise supplémentaire, on l'a transporté à la Pitié-Salpêtrière à Paris, et ça a coûté 15 000 euros. Et tout ça s'ajoute à des frais qui sont à la fois considérables et normaux. Je voudrais faire une remarque. Peut-être peut-on expliquer le zèle qui est déployé au chevet de Vincent Lambert par l'appartenance du couple à la grande famille de la santé publique. Oui, je voudrais vous rappeler que lorsqu'il était en pleine activité, Vincent Lambert était infirmier psychiatrique et que son épouse est toujours infirmière. Et puis ce cas qui est à la fois technique mais aussi humanitaire est loin, hélas, d'être un cas unique, puisqu'on recense en France 1500 personnes en état végétatif, dont un ancien footballeur qui depuis 32 ans est soigné à son propre domicile. Quant à l'état de conscience minimale que certains proches prête à Vincent Lambert, on peut en douter, oui, on peut douter qu'il ait eu une réaction lorsque, voilà quelques jours, on est venu l'informer qu'on allait arrêter les soins et le lendemain, qu'on allait les reprendre.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Une question plus badine. Le Viagra a-t-il fait la preuve de son efficacité depuis que, voilà 20 ans, on l'a lancé en France? Ben, je pense que la question est de la compétence du docteur Philippe Brenneau, qui est psychiatre et anthropologue, et auteur d'un livre intitulé « Pourquoi l'amour est-il si compliqué ?» Ben, docteur, je vous propose une réponse pour faire vivre et prospérer les sexologues.
Merci Philippe de répondre à cette question qui me taraude depuis très longtemps. Pourquoi c'est si compliqué l'amour ? Vous venez d'y répondre, peut-être pour donner effectivement du business aux sexologues, c'est possible.
Alors vous voilà donc promu, et c'est tout à votre honneur, réparateur de panne sexuelle.
Oui, en partie.
Oui, enfin en partie avec un médicament qui n'existait pas voilà 20 ans et qui agit par dilatation des vaisseaux sanguins.
Oui, c'est-à-dire qu'on a essayé depuis le début de l'humanité, on a fait des efforts parce que les pannes, elles ne sont pas d'aujourd'hui. Et on a fait des efforts, il y avait quand même la corne de rhinocéros, il y avait le bois bandé, on disait que ça marchait très bien. Et puis, quand on a découvert par hasard le Viagra, ben ça a transformé, aujourd'hui on le voit, 20 ans après, ça a transformé la vie d'énormément d'hommes, même, même, je dirais, des hommes qui ne sont pas très âgés, mais qui avaient des pannes émotionnelles et qui sont quand même, qu'on arrive à aider tout à fait, alors qu'ils seraient, restés avec leurs émotions pendant très longtemps.
Le démarrage a été foudroyant, hein?
Oui, comme l'érection est foudroyante. Vous connaissez la définition de Flaubert. Flaubert disait dans son dictionnaire des idées reçues, « Érection ne se dit qu'en parlant des monuments ». Et c'est là que c'est foudroyant. Effectivement, l'érection d'un monument qui est le phallus, le pénis humain. Oui, c'est foudroyant.
Alors, la pilule bleue en forme de losange a donc ranimé les énergies défaillantes de millions d'hommes. Bon, qui ne se sont plus cachés pour acheter le produit ni pour s'en servir.
Ben oui, juste aujourd'hui, je me souviens de l'époque, il y a 20 ans, où certains pharmaciens le cachaient sous le comptoir, avaient du mal, mais c'était la même chose avec la pilule ou les préservatifs il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, le Viagra n'est pas en vente libre. Ça, il faut le souligner, parce qu'à la fois, on va en parler, il y a beaucoup de bienfaits, mais il faut qu'il y ait une prescription médicale, parce qu'il y a une contre-indication.
Mais d'une attendez, docteur Breynaud, est-ce qu'il n'est pas contradictoire qu'on ne puisse le délivrer que sur prescription médicale et que d'un autre côté, la Sécu le dérembourse?
Elle ne le dérembourse pas, c'est qu'elle ne l'a jamais remboursé. Non, il faut le sur prescription médicale parce qu'il y a une contre-indication. Les gens qui ont une angine de poitrine, qui prennent de la trinitrine, des produits pour vasodilater les coronaires, eh bien effectivement, avec le Viagra qui fait exactement le même effet, il y a un risque grave. Donc il faut que, il faut que la prescription soit donnée par un médecin pour éviter cette association. Mais sinon, le Viagra est un médicament pro-cardiaque. Il y a beaucoup de gens qui en ont encore peur. Ben non. Ça marche, ça fait mieux marcher le cœur. Et alors, par contre, ça serait très bien, parce qu'il est, à mon avis, il est d'utilité publique, ça serait peut-être très bien qu'il soit remboursé. Il y a eu des initiatives, hein, je crois, dans ce sens.
Surtout qu'il a valu cher, hein.
Oui.
Je crois qu'on l'a vendu jusqu'à 40 euros la boîte, c'était pas donné.
Oh, 80 euros la boîte, ça valait 10 euros le comprimé, quelquefois.
Ah, oui. Je note quand même qu'il est d'un usage, je préciserai, psychologique, délicat. Et ça, c'est inhérent à ces délais d'action et à la prolongation de cette action. Parce que l'homme qui est en bonne fortune, pour employer un vieux terme pudique, qui attend une dame, à quel moment doit-il prendre le médicament pour être à la hauteur de la situation?
De la situation. Bon, disons qu'il y a plusieurs produits dans la classe thérapeutique proche du Viagra. Il y a certains d'entre eux qui doivent être pris plusieurs heures à l'avance. Mais avec Viagra, souvent c'est une heure avant, mais ça va marcher pendant très longtemps. Ça va marcher sur une douzaine d'heures. C'est-à-dire que le Viagra, il faut savoir une chose, ne donne pas d'érection.
Si la dame habite à côté de chez lui, il faut pas le prendre quand même une heure avant, hein.
Oui, ça peut se prendre une heure avant, mais ça ne donne pas d'érection.
Il faut pas non plus que la dame reparte trop vite, puisque elle peut jouer les prolongations.
Oui, ça peut jouer les prolongations. Et d'ailleurs, Viagra est très utilisé aujourd'hui dans ce qu'on appelle la sexualité récréative. C'est-à-dire ça peut permettre, pour les hommes, on va dire un terme trivial, de rebander plus vite. Ça va permettre d'être plus en forme pendant longtemps. Et donc, effectivement, ça aide peut-être aussi à l'érotisme moderne, c'est-à-dire d'avoir des sessions de sexualité qui durent un peu plus longtemps.
Alors, un maire du Loiret a eu l'idée d'associer le plaisir, puisque c'est de ça qu'il s'agit d'abord, à la procréation. Et il s'est proposé de distribuer aux plus mollassons de ses administrés des boîtes de Viagra pour, dit-il, sauver ses écoles. C'est peut-être aller un peu loin, hein?
Ben, l'idée est assez intéressante. Vu que s'il y a moins d'élèves, on va supprimer l'école, il se dit, il suffit de faire, d'augmenter un petit peu la natalité et on va distribuer du Viagra pour que, et le rembourser gratuitement, de façon à ce qu'on fasse plus d'enfants. Alors, ça aide pas à la fécondité, mais si on fait plus l'amour, peut-être qu'on fera plus d'enfants. D'abord, l'initiative est intéressante, c'est d'essayer de conserver les écoles. Moi, je crois que c'est ça qui est bien. Si le Viagra peut y contribuer, pourquoi pas ?
Oui. Alors, il y a quand même des effets indésirables, des étourdissements, des céphalées, et puis, paraît-il, une perte de l'audition. Et c'est-à-dire que le Don Juan n'entend plus la dame lorsqu'elle dit « Mais je vous répète que je n'ai jamais trompé mon mari. »
Ah oui. Mais cette perte de l'audition, elle a aussi à voir avec une autre pratique qui s'appelle la masturbation. Parce qu'on a souvent dit que la masturbation rendait sourd. J'ai cherché pendant très longtemps, j'ai jamais trouvé l'origine. Et apparemment, vous venez de confirmer qu'il y a des problèmes d'audition avec le sexe, moi je crois.
Merci docteur Breynaud et bon courage.
Merci beaucoup Philippe, à bientôt.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
En dehors du sexe augmenté, on connaissait déjà l'entreprise augmentée, on connaissait déjà la réalité augmentée, et même, mais ça a été moins bien accueilli, l'augmentation de la CSG qui a concerné les retraités. Eh bien, voilà qu'apparaît aujourd'hui l'oreille augmentée. Alors, elle est disponible sur les smartphones. C'est le produit de l'intelligence artificielle, puisque il a pu être mis au point grâce à une association entre le constructeur Starkey et Google. Attention, hein, c'est réservé aux malentendants et c'est disponible sur le smartphone. Et pas pour rien, hein. Il faut compter entre 2000 et 3500 euros pour que dans ces prothèses, celui qu'on appelle vulgairement le dur de la feuille, puisse bénéficier d'une traduction instantanée en 27 langues. Oui, attention, faut pas confondre de traduction instantanée et conversation. Non, par exemple, c'est quelque chose qui aide le malentendant à voyager dans les pays dont il ne comprend pas la langue, et pourquoi pas, au-delà des malentendants, tous ceux qui ont un problème linguistique. Alors, le malentendant, pour l'instant, écoute la traduction simultanée, tandis que sur son écran s'inscrivent les phrases qu'on vient de traduire. Et là, on peut mesurer la supériorité de la machine sur l'homme. Parce que d'abord, la machine, elle parle 27 langues, hein, excusez du peu, 27 langues dont le chinois, le macédonien, le persan, le thaï. Ensuite, elle est toujours disponible, alors que le traducteur simultané, lui, ne peut légalement travailler que 3 heures par jour. C'est une petite merveille. Bon, vous me direz qu'elle coûte entre 2000 et 3005 euros. Oui, mais enfin, ça vaut ça, puisque on peut voyager beaucoup plus confortablement dans les pays dont on ne connaît pas la langue. Et alors, ça permet en prime, si vous voulez, de comprendre Emmanuel Macron lorsqu'il s'entretient en allemand avec la chancelière Merkel, et même, permettez-moi cette référence personnelle, de m'entendre pour la première fois parler en anglais lorsqu'on est un malentendant du Royaume-Uni.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Et maintenant, une question d'histoire. Pourquoi Lafayette est-il davantage un grand homme pour les Américains que pour les Français ? Eh bien, je vais poser la question à Laurent Zecchini, qui a consacré tout un livre à ce sujet, après avoir été en poste de correspondant pour Le Monde pendant plusieurs années et à ce titre avoir pu puiser dans les archives américaines. Bonjour Laurent Zecchini.
Bonjour Philippe Boulard.
Alors, c'est le paradoxe de Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, c'est sa véritable identité. Il a été le héros de la guerre d'indépendance et c'est pourtant un mal-aimé de l'histoire de France.
Oui, c'est vrai. Il y a deux traditions historiographiques complètement différentes aux États-Unis et en France. Pourquoi ? Parce que les Français gardent essentiellement le souvenir de la Révolution française, qui est elle-même très marquée par la tradition jacobine, et on le voit bien dans le monde universitaire français. Et Lafayette a fait un parcours, effectivement, qui n'était pas tout à fait dans le moule, en quelque sorte, des révolutionnaires. Il était partisan de la Révolution, sauf qu'en 1791, et surtout à partir de 1792, il a pris ses distances. Il a été le premier à proposer une déclaration des droits de l'homme, le premier à demander la convocation de l'Assemblée nationale. Il a été le premier commandant de la garde nationale. Donc c'est un brevet révolutionnaire, mais il est vrai que qui ne dure pas jusqu'à la fin de la Révolution.
Est-ce que Napoléon ne se venge pas du fait que, quand il est revenu en France au début du consulat, il a refusé de le servir lorsqu'il dit de lui « c'était un niais sans talent civil ni militaire ».
Oui, Napoléon a même dit que Lafayette était dupe des hommes et des choses, qui peut éventuellement se défendre, mais vous avez tout à fait raison. Lafayette a refusé de voter le consulat à vie, et après, il a été l'artisan de l'abdication de Napoléon. Et quand Lafayette est revenu de ses années de prison, c'est vrai que Napoléon ne le voyait pas revenir avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'il avait peur que Lafayette puisse lui faire de l'ombre.
Alors, à Washington, il y a une statue de Lafayette face à la Maison Blanche. À Paris, il y a surtout un grand magasin.
Oui, on peut voir les choses comme ça, mais c'est vrai que les Américains ont gardé une image absolument sans tache, presque sacralisée de Lafayette, parce que en 1777, il est parti abandonnant, entre guillemets, femme, amis, son rang au sein de la cour. Il a acheté un vaisseau sur sa fortune personnelle et il est parti aider les insurgés américains. Et quand il a fait son quatrième voyage en 1824-1825, il a reçu un accueil de héros national aux États-Unis parce qu'il était considéré comme presque l'un des pères fondateurs des États-Unis. Et puis, ce n'est pas étonnant que cette tradition perdure, puisque dans les écoles américaines, les écoliers américains continuent à apprendre cette idée qu'effectivement Lafayette est venu à leur secours pour les aider à se libérer du joug britannique à l'époque.
Il a donc aujourd'hui un véritable culte de l'autre côté de l'océan. Je note au passage quand même que pour traverser l'océan, on mettait plus de temps qu'aujourd'hui. Hein.
Oui, non. Quand on prend par exemple la frégate l'Hermione en 1780, les navires les plus rapides mettaient 4-5 semaines. Donc c'était relativement rapide. Alors il pouvait effectivement y avoir des voyages transatlantiques qui duraient 2 mois en fonction des vents, si notamment les bateaux devaient faire escale aux Antilles.
Comment, après plusieurs séjours, parce qu'il n'est pas resté tout le temps la guerre d'indépendance, s'est-il retrouvé prisonnier des Autrichiens ?
C'est l'évolution de la Révolution française qui a voulu ça. C'est-à-dire qu'à partir de 1792, Lafayette est voué aux hégémonies par Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just et quelques autres. Il prend de plus en plus ses distances avec le cours de la Révolution française et il finit le 19 août 1792 à quitter la France avec une partie de son état-major. Il traverse la frontière. Et là, il reste libre pendant une dizaine d'heures, tout simplement. Et après, il est capturé par les troupes prussiennes et autrichiennes. Et il passera 5 ans en captivité.
Alors, le portrait de lui que vous tracez en fait le premier à avoir utilisé les médias pour se faire connaître et un homme avide de popularité.
Oui, aucun doute. La gloire était quelque chose de très important pour Lafayette. Et je pense que à différentes étapes de sa vie, ça lui a probablement obscurci un petit peu le jugement. C'est en cela que peut-être Napoléon n'avait peut-être pas tout à fait tort. Mais il faut se rappeler aussi que la gloire au XVIIIe siècle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas quelque chose de factice. On cherche à se couvrir de gloire sur les champs de bataille, notamment. Mais Lafayette avait une soif de gloire qui était peut-être supérieure à la moyenne, c'est sûr.
Enfin, c'était injuste de le surnommer général Morphée et de dire comme Chateaubriand qu'il n'avait fait que rêvasser à la Révolution. Parce que sa dernière lutte, quand même, c'est contre l'esclavage, c'est tout à son honneur.
Absolument, et il a d'ailleurs vainement tenté de convaincre George Washington, le premier président américain, de se joindre à son combat pour abolir progressivement les Noirs de sa plantation qu'il avait achetée en Guyane. Et à l'époque, Washington, évidemment, ne l'a pas suivi là-dessus. Oui.
Merci Laurent Zecchini pour cet essai bien transformé, comme disent les rugbyman, qui est en même temps une réhabilitation.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Le mot de la semaine pourrait bien être celui de la décennie. C'est un verbe pronominal, se radicaliser. Oui, parce que tout le monde se radicalise. Hein. Les détenus qu'on avait placés là pour qu'ils se calment, ils trouvent un regain de conviction. Les gilets jaunes se sont radicalisés au point qu'on en a confondu certains avec les casseurs, alors que ça n'a aucun rapport avec les radicaux qui furent socialistes en d'autres temps, notamment au début du siècle, et qu'on reconnaissait à leur Pépillon, à leur appétit de banquet républicain et à leur goût pour les mesures radicales. Oui, par exemple, souvenez-vous, cette séparation qui a fait tant de bruit, qui en fait encore un peu en ce moment, entre les églises et l'État. À dimanche prochain!
Et oui, effectivement, dimanche prochain, Philippe, pour notre Allô, ici Bouvard sur RTL. Nous sommes bien d'accord, Philippe. On se retrouve dimanche.
Ah, ben, vous pouvez compter sur moi, hein.
Et dans un instant, le grand jury RTL Le Figaro LCI, présenté par Benjamin Sportouche, qui recevra Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Très bon dimanche à vous. Vous écoutez RTL, il est midi.